récit de guérison. Un parmi tant d'autres. Nous savons que dans les évangiles, Jésus guérit souvent. Beaucoup de monde et partout. Alors donc, les récits de guérison, dans la Bible, nous en avons bien l'habitude. En avons-nous l'habitude dans nos vies? Nous aimons dire que ces paroles bibliques nous touchent et nous parlent dans nos propres vies, mais sur ce sujet-là, la guérison. En avons-nous des échos au plus profond de nous-mêmes? C'est vrai que dans nos églises réformées, nous n'avons pas l'habitude de pratiquer la guérison, comme dans d'autres églises d'ailleurs. Nous savons que dans des églises sœurs, des églises évangéliques ou même dans certains courants de l'Église catholique, la guérison est une pratique courante lors d'un culte, lors d'une célébration, où des personnes qui ont besoin de guérison s'avancent, reçoivent l'imposition des mains et parfois sont guéries. L'autre jour, j'ai reçu un coup de téléphone d'une dame qui me pose la question suivante après s'être assurée qu'elle était bien dans une église et que c'était bien un pasteur qui était au bout du fil. « Pasteur, faites-vous des guérisons ?» Eh bien, j'avoue avoir été plutôt embarrassée. La première réponse aurait été de dire non. Mais peut-être non comme vous l'entendez, c'est difficile. J'étais embarrassée. Je l'ai redirigée vers des collègues qui, effectivement, je le sais, sont plus habitués à ce genre de pratique dans leur communauté. Mais cela m'a quand même un petit peu interrogée. Nous y reviendrons. Alors, dans notre texte biblique, revenons au texte, ça c'est plus facile, on aime bien les textes. Sinon, les réformés, on a l'habitude de les expliquer, de les tordre dans tous les sens, alors on y revient. Jésus guérit un lépreux. Alors, la lèpre n'est plus une maladie répandue dans nos pays modernes, en tous les cas. C'est une maladie de la peau que le passage du livre du Lévitique, vous l'avez entendu tout à l'heure, signifiait. Cette maladie de peau signifie être impur. La loi juive disait, si tu as cette maladie, tu es impur. Alors les lépreux devaient se distinguer, avec les vêtements déchirés, crier, impur, impur, et ils devaient vivre en dehors de la ville. Ils n'avaient plus, en somme, d'existence sociale. Autant dire qu'être lépreux signifiait être mort aux yeux de la société. Alors notre texte commence en disant que l'homme malade va vers Jésus. Déjà, première interrogation pour nous réformés. Encore une. Bon. Alors nous les réformés, nous aimons bien aussi dire, prenez la grâce de Dieu. Vous savez, quand on dit Dieu vient vers nous le premier, même si nous on ne lui demande rien. Et là, dans ce texte, on nous dit que l'homme va vers Jésus le premier. Eh bien, c'est aussi une bonne nouvelle. Cela veut dire que nous pouvons aller vers notre Dieu en confiance pour aller lui demander quelque chose. Je peux donc, dans mes misères, comme ce lépreux, dans ma révolte, dans mes questions, m'adresser à Dieu, aller vers lui, le questionner et l'invoquer. Alors maintenant, savoir quelles étaient les raisons profondes de la venue de ce lépreux vers Jésus, je ne sais pas bien. Est-ce qu'il est allé vers lui parce qu'il l'avait reconnu comme fils de Dieu, ou bien tout simplement parce qu'il avait entendu qu'il faisait des guérisons et des miracles et que lui avait bien envie d'être guéri pour réintégrer sa communauté? Je pense que la suite du texte nous éclaire un peu. L'homme dit à Jésus, « Si tu le veux, tu peux me guérir. » Alors là, deux réactions possibles. Certains peuvent dire, « Quelle foi !» Et d'autres, « Quel culot !» Alors, qu'en pensez-vous ? Grande foi ou gros culot ? Culot, le culot de la foi. Merci Norbert. Tout à fait, c'est intéressant. Alors, certains disent ne jamais rien demander à Dieu de concret dans leur vie. Parce que Dieu n'est pas là pour résoudre nos problèmes concrets. Que Dieu est une attitude plus spirituelle, plus symbolique. Quand on dit « Dieu guérit-moi », c'est « guérit-moi de ma crainte, de mes peurs, mais pas « guérit-moi de cette maladie ». Dans nos communautés, c'est vrai, nous restons dans des prières de louange, de confiance, mais peu souvent, c'est vrai, dans des demandes concrètes. M'avez-vous une fois entendu dire ici « Seigneur, guéris cet ami, ce paroissien de sa maladie. » Nos prières sont plutôt dans ces cas-là « Aide cette personne dans ce moment difficile, porte-la, montre-lui ton amour, montre-lui ton espérance et ta lumière. » Alors on peut s'interroger, manquons-nous de foi ? C'est ce qu'une personne de notre communauté avait partagé une fois avec nous. Une de ses amies était gravement malade et elle nous disait ne pas prier pour sa guérison, mais prier pour qu'effectivement elle soit le plus possible en espérance, qu'elle ait le plus de force possible pour vivre cette maladie. Et elle nous avait posé la question, je me demande parfois si je ne manque pas de foi. Alors, je ne sais pas, on peut s'interroger, je n'ai pas de réponse à vous donner. Est-ce parce que nous avons peur que la réponse ne soit pas celle que nous attendons, que nous n'osons pas demander des guérisons? Je ne sais pas. Alors, revenons au texte. Jésus, effectivement, va guérir ce lépreux. Mais je crois que la guérison n'est pas un acte magique, ou en tous les cas ne doit pas s'arrêter là. Tu es guéri, c'est bien, mais maintenant, que fais-tu de cette guérison ? Pour moi, je trouve la demande du lépreux parfois semblable à du chantage. J'ai l'impression que cet homme instrumentalise Jésus et le met devant une impasse. Si tu ne me guéris pas, ben, ça veut dire que tu ne le veux pas. Et si tu ne le veux pas, c'est que tu n'es pas ce Dieu d'amour dont tout le monde parle. Cela rejoint un peu le raisonnement de nos contemporains. Si un Dieu d'amour existait, il n'y aurait pas toutes ces guerres, tous ces malheurs, toutes ces maladies. Vous connaissez la phrase. Ou encore ceux qui prient en disant « Si tu ne me guéris pas, je ne croirai plus en toi et je n'irai plus au temple. » Oui, nous disons aussi ça dans nos prières. Ou bien « Prouve-moi que tu existes, fais ceci, fais cela. » Mais qui suis-je pour donner des ordres à Dieu ? Dieu n'est pas un jouet. Il n'est pas à notre merci pour obéir à nos besoins. Mais bien sûr, il n'en reste pas moins que dans nos détresses les plus profondes, nous donnons des ordres à Dieu. Car nous sommes humains et nous avons besoin de gestes, de preuves, de choses rationnelles dans nos vies de foi. Alors, peut-être que la foi pour ce lépreux, c'était d'ajouter cet acte dans ce qu'il croyait. mais qu'on peut dire aussi que la foi, cela peut être croire sans voir, croire en faisant confiance sans avoir de gestes évidents dans nos vies. Ce que je dirais maintenant, c'est que personne ne peut juger et n'a le droit de juger la relation d'un homme ou d'une femme avec son Dieu, même si cela nous choque. Chacun, personnellement, vit une relation avec Dieu que personne n'a le droit de juger. Jésus, dans notre texte, va pourtant se mettre en colère. Jésus guérit le lépreux, mais on peut le dire, c'est une guérison manquée, ratée. Il a écouté cet homme, mais cet homme n'a pas reçu cette guérison comme une nouvelle vie pour lui. Il n'écoute pas ce que Jésus lui demande. Et entendez bien, dans notre texte, Jésus guérit l'homme, mais ensuite lui demande quelque chose. Ne dit rien à personne. C'est très intéressant, ça, ce mouvement. Dans chacune de nos vies, Jésus nous donne, mais nous demande aussi. C'est le sens de notre prière, la volonté de Dieu. Jésus nous donne, mais attend de nous aussi de faire telle ou telle chose, d'être en chemin. Et dans nos cultes, vous l'avez peut-être remarqué, mais l'annonce du pardon précède la volonté de Dieu. Et ça a un sens, ça. On veut dire, Dieu nous pardonne d'abord, mais maintenant que tu es pardonné, tu peux agir, tu peux vivre, tu peux dire en mon nom, et il faut le faire. Alors Jésus demande à cet homme de ne rien dire. Pourquoi ? Parce que Jésus a bien vu que pour cet homme, guérir était de l'ordre de la magie, mais qu'il n'avait pas fait de cette guérison une nouvelle vie en Christ. Son corps était guéri, son esprit ne l'était pas. L'homme se trompe de Messie. Il suit le mauvais roi, celui de la magie et de la vantardise. Il va dire partout à tout le monde, je suis guéri. Mais ne voit pas que celui qui l'a libéré est le Dieu de Jésus-Christ, qui lui est le Dieu de la vie et de l'amour. Comme ce lépreux, pour chacun de nous, il est aussi difficile chaque jour de ne pas se tromper de Christ. Quel chemin suivons-nous ? Celui de la vantardise ? Celui de l'égoïsme ? Ou celui du pardon et de l'amour ? Alors, je vous parlais tout à l'heure d'une guérison manquée. Si certains parmi vous étaient au culte deux dimanches en arrière, souvenez-vous, on avait parlé de l'épisode précédent où Jésus, après avoir guéri tant et tant de malades, éprouve le besoin de se retirer seul dans le désert. Et souvenez-vous, je vous avais expliqué que pour moi, c'était pour Jésus un moment difficile, qu'il avait peut-être douté que c'était trop, qu'il avait besoin de se retirer et qu'il avait choisi de prier. Je vous avais parlé aussi des titres, vous vous souvenez, des petits titres qu'il y a dans nos Bibles. Et là, on nous disait, Jésus guérit beaucoup de malades, il part annoncer la bonne nouvelle. Alors que dans ce texte, pour moi, c'était, je l'avais appelé le trou noir de Jésus. Vous vous rappelez ? Et notre petit texte du lépreux vient juste après. Alors, il avait repris courage, Jésus, grâce à ses amis qui étaient venus le chercher, il avait dit, allez, viens, il faut continuer, tout le monde t'attend. Et là, paf, première guérison manquée. Pas évident. Hein. Et là aussi, hein, le titre dans ma Bible, Jésus guérit un lépreux. Est-il guéri ce lépreux ? En partie. Alors, malgré cet échec, nous voyons dans la suite de l'évangile, bien sûr, que d'autres malades continuent à venir voir Jésus et à être guéris dans leur corps, mais aussi dans leur esprit. Le texte suivant, c'est celui de l'homme paralysé qui sera libéré. Et là, c'est intéressant, celui-là n'a rien demandé à Jésus. Mais Jésus a vu que ses amis se sont pris en main. Vous savez l'histoire du paralytique par le toit. C'est ses amis qui ont amené ce malade, qui ont fait un trou dans le toit, il y avait tellement de monde, ils ne pouvaient pas rentrer voir Jésus, et qui ont descendu le paralytique aux pieds du Christ. L'homme dans la couchette n'avait rien demandé. Mais ses amis ont cru en la vie de Jésus, et en même temps, ils ont aussi participé à cela en prenant leurs responsabilités. Et Jésus, quand il voit cet acte, dit « Tes péchés sont pardonnés ». Il va guérir l'esprit en premier. Jésus commence par le libérer de ses péchés, mais ensuite, qu'est-ce qui se passe dans ce petit texte? Les maîtres de la loi vont lui mettre la pression. Facile de dire « Tes péchés sont pardonnés ». Alors Jésus, du coup, va lui dire « Va, lève-toi et marche ». Il sera ensuite guéri physiquement, mais manifestement pour Jésus, ce qui était important, c'était que ses péchés soient pardonnés. Notre lépreux, lui, est bien guéri dans son corps, mais n'a pas reçu la vie en Jésus-Christ. Il ne l'a pas reconnu, il ne l'a pas accepté. Alors Seigneur, puissions-nous, chaque jour et ce matin, être guéris dans notre être tout entier. Puissions-nous, dans chacune de nos journées, dans chaque choix de chemin, ne jamais nous tromper de Messie. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes nouveaux, libérés sur les chemins de vie que tu nous offres. Fais de nous des témoins de ta bonne nouvelle d'amour et de pardon, en ton nom.